est Cohen de Midian, donc il est prêtre de Midian. Il est le beau-père de Moshe. Et il a entendu « Et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo, ki hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. » Il a entendu tout ce qu'Elohim a fait à Moshe, à Israël, son peuple. Lui, pour lui, Israël, c'est le peuple de Moshe. Ou alors on pourrait dire Israël, le peuple d'Elohim, dans le texte. Ki hotzi, car il a sorti, car Hashem a sorti Israël de Mitzrayim. Compliqué la phrase. Donc, vous savez, il est Cohen de Midian. Nous, on sait, par ailleurs, le Midrash dit, que Yitro était un des trois conseillers de Paro. Il y avait trois conseillers de Paro qui étaient Yitro, Iov et Bilam. Donc, lui, Yitro, Bilam, qu'on va voir plus loin, le prophète des nations, et Iov, Job. C'est Bilam qui a eu l'idée de noyer les garçons dans le Nil. Yitro, il s'est enfui. Il n'était pas d'accord, mais on ne pouvait pas s'opposer. Donc il s'est enfui. Et du coup, il est devenu persona non grata en Égypte. Il est arrivé en Midian, il est devenu immédiatement un prêtre, parce que ça devait être une super tête. Pour être un des trois conseillers de Paro, ça devait être... ces trois-là, c'était des grosses têtes, quoi. Enfin, des gens qui connaissaient beaucoup de choses, ils devaient connaître beaucoup de choses en magie, ils devaient connaître toute l'idolâtrie égyptienne, etc. On n'est pas conseiller de Paro comme ça. Aucun d'entre vous n'est conseiller de Paro, donc. Et alors il s'est enfui et il est devenu Cohen en Midian. Et pour son malheur, il a eu que des filles. Et donc, il n'avait personne pour défendre ses filles, donc. Et ses filles sont des bergères. Et elles vont avoir des problèmes parce qu'évidemment, les bergers vont les maltraiter. Ça, on va entendre. Mais il y a un problème ici. C'est marqué, il a entendu tout ce que Kolacher Asa Elohim à Moshe à Israël et qu'Hachem a sorti Israël de Mitzrayim. Et curieusement, regardez ce que Rashi dit. Vaishma Yitro. Rashi fait comme si la suite du verset n'existait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il demande? Mashmiya Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait bouger? Mais c'est marqué plus bas. Il a entendu tout ce qu'Elohim a fait à Moshe, à son peuple, et que Hachem a sorti Israël de Mitzrayim. Ça ne suffit pas? Pourquoi on pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu? Lis la suite du verset, tu sauras ce qu'il a entendu. Alors, avant de revenir là-dessus, d'abord Rashi répond à la question. Et il répond qu'il y a deux événements qui ont vraiment fait bouger Yitro. Il a entendu Kriat Yamsouf et la guerre contre Amalek. Le Rambamou qui remarque ici que, en réalité, la venue de Yitro, elle aurait pu avoir lieu d'après certains textes dans la Gemara, même postérieurement au décalogue. C'est-à-dire peut-être qu'il n'est venu qu'après la Aseret HaDibrot. Donc, maintenant, si effectivement, comme on raconte la conversion de Yitro avant la Satanibrot, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'il avait reconnu la vérité en se basant sur les événements historiques, la mer et la guerre d'Amalek, comme Rachid le dit. Donc, la première agression contre Israël, c'est-à-dire celle d'Amalek, elle n'a pas de raison religieuse, puisqu'elle a eu lieu avant Aseret HaDibrot, avant que les Bnei Israël ne reçoivent la Torah, en quelque sorte. Donc, ils n'ont pas, Amalek n'a pas attaqué Israël à cause de la Torah. Si on dit que Yitro est venu avant Aseret HaDibrot, Yitro n'est pas venu parce que, à cause de la grandeur de la Torah, qu'il aurait reconnu, puisque quand il est venu, elle n'avait pas encore été donnée. Alors, Amalek qui attaque Israël, on a dit, c'est pas pour des raisons religieuses, si on voit comme ça. Amalek, s'il attaque Israël, c'est que il pense qu'Israël n'a pas droit d'exister. On ne sait pas pourquoi il pense qu'il n'a pas le droit d'exister. Mais il l'attaque sans raison. Et il attaque Israël sans espoir de gagner quelque chose. Israël n'a pas de territoire quand il l'attaque. Il attaque Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'il va ramasser ? Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'il va ramasser? Un peu d'or, un peu d'argent? Ça vaut la peine de faire la guerre pour ça? Pour lui, pour Yitro, donc, les deux, le passage de la mer et la guerre contre Amalek, c'est des événements qui sont tellement importants, qui, d'une certaine manière, sont tellement révélateurs du Dieu d'Israël, enfin de l'intervention du Dieu d'Israël, que, à eux tout seuls, ces événements méritent qu'ils viennent et qu'ils se convertissent. Alors il dit que ce que Rashi cite, les deux événements, c'est Rashi cite les Midrashim, bien sûr, ici. Il dit que le passage de la mer aurait pu laisser subsister des doutes. On aurait pu imaginer que c'est une vengeance. Les dieux d'Israël, si vous voulez, se vengerait des Égyptiens qui ont voulu tuer les enfants juifs, les garçons juifs. Donc il y a une espèce de vengeance. Mais par contre, la défaite d'Amalek, elle marque le règne de la justice divine, qui protège des victimes innocentes qui sont attaquées pour rien. Donc la révélation, dit-il, de la toute-puissance divine dans l'esprit d'une justice immanente, donc justice qui a lieu ici, ce serait ça la conversion d'Yitro. La raison de la conversion d'Yitro. L'attaque d'Amalek, qu'on dit ici une attaque sans raison, elle fait penser, je vous dis ça, je ne sais pas quoi en faire, mais On connaît les parents d'Amalek. Les parents d'Amalek, c'est le fils aîné d'Ésav, qui s'appelle Eliphaz, et sa concubine, qui est Timna. Timna, c'est une femme qui est présentée dans la Torah comme étant une princesse, la sœur de Lotan, tout ce qu'on sait d'elle. Ce que les Chachamim nous disent, cette Timna, elle a absolument voulu entrer dans la famille d'Abraham. Alors on dit qu'elle voulait épouser Yitzhak, qu'elle voulait épouser Yaakov, Esav. Elle était prête à épouser n'importe qui. Absolument, elle voulait à tout prix entrer dans la famille d'Abraham. Et finalement, elle n'a pas réussi complètement, mais elle n'a pas complètement échoué, si on peut dire comme ça. C'est qu'elle est devenue, non pas la femme d'Eliphaz, mais une concubine d'Eliphaz. Elle est entrée par la petite porte dans la descendance d'Abraham, côté Esav. Bon, nous, on sait que c'est pas le bon côté, mais elle est entrée. Et la question qui se pose, évidemment, sur cette Timna, c'est pourquoi on l'a refusée. Abraham Avinu, qui avait les portes grandes ouvertes à tout le monde, pourquoi elle, ils l'ont refusée? Je crois qu'on ne connaît pas de réponse. On ne sait pas pourquoi. Hazal devait avoir Abraham devait avoir, et la suite aussi, de très très bonnes raisons pour la refuser. Mais on voit que c'était une sacrée bonne femme, puisque finalement, la puissance de cette femme, elle a quand même produit Amalek. D'accord ? Cette femme-là, avec Eliphaz, qui est. Eliphaz, c'est quand même. C'est Esav. Mais, bon, c'est Esav, mais. Rappelez-vous, Eliphaz, c'est quand même. C'est le fils d'Esav, mais il est quand même l'élève de Yaakov. On est obligé de dire ça aussi, puisque Eliphaz n'a pas tué Yaakov, alors que son père l'a envoyé le tuer. Il a accepté le deal avec la Chochma, c'est-à-dire il a accepté la proposition de Yaakov, qui lui a dit, écoute, si tu me ruines complètement, c'est-à-dire tu me prends tout ce que j'ai, alors je suis considéré comme ani, comme un pauvre, et un pauvre est chashuv kemet. Un pauvre, il est économiquement mort. Alors, il t'a dit de me tuer, tu pourras lui dire que tu m'as tué économiquement. Et c'est pour ça que Yaakov arrive chez Laban et qu'il n'a rien. Parce que Eliphaz lui a tout pris. Avec l'accord de Yaakov, puisque Yaakov n'a pas voulu, il aurait pu se battre avec Eliphaz. Yaakov n'était pas quelqu'un. Chazal nous dit qu'il était aussi fort qu'Esav. Et quand il y avait la bagarre, quand il craignait de voir se battre avec Esav, il craignait autant de tuer que d'être tué. Donc il était aussi fort que lui. L'ange d'Esav, il n'a pas réussi à le vaincre. Donc dans la bagarre, je ne suis pas sûr du tout qu'il n'aurait pas gagné contre Eliphaz, mais il n'a même pas discuté. Il ne lui a pas dit, écoutez, on n'a pas besoin d'écouter son père quand il vous dit d'aller tuer quelqu'un. Bon, c'est pas toujours clair qu'on n'a pas le droit d'étudier. Parce qu'il y a des fois où, effectivement, David il dit bien à Shlomo de régler le compte de certaines personnes au moment de sa mort. Bon, on va pas entrer là-dedans, mais c'est pas non plus tout à fait évident. Je veux dire, et ça, il avait de bonnes raisons d'en vouloir à Yaakov, qui avait quand même. Pour lui, il disait qu'il lui a pris la prora et les brachot. Donc, je vais seulement dire que cette idée que on trouve déjà quelque chose comme ça. Ça veut dire. On pourrait penser. Si vous voulez que Timna, puis elle a été refusée sans raison, elle produit un fils qui attaque le clan d'Israël sans raison. Bon, ça veut dire, on pourrait très bien dire que si elle avait été acceptée complètement, elle aurait eu la même force, mais peut-être positive, bien ce moment-là, qui sait ce qu'elle n'aurait pas apporté au clan d'Israël. Les enfants qu'elle aurait pu avoir à l'intérieur du clan d'Israël au lieu d'avoir un enfant comme concubine d'Aliphaz. Je vous fais de l'histoire fiction, mais est-ce que... On voit ce qu'elle donne dans le négatif, mais le négatif est... Il est la résultante de ce qu'on n'a pas voulu l'accepter. Alors maintenant, on peut aussi dire que si les Chachamim n'ont pas voulu l'accepter, si Avraham Avinu n'a pas voulu l'accepter, c'est probablement qu'il avait de bonnes raisons. Est-ce qu'il a vu, lui, qu'elle n'était peut-être pas capable de produire quelque chose de positif, elle était seulement dans le négatif. Elle ne pouvait donner quelque chose de négatif. Ce qu'elle a donné, c'est-à-dire Amalek. Alors Amalek, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Parce qu'Amalek, si vous voulez, c'est la pointe avancée des Saves. Bon, c'est le mal complet. Mais c'est aussi une force avec laquelle on va compter tout le long de l'histoire. Alors, je vous a dit, Milchama l'Hashem ba'amalek midor dor. On a lu ça la semaine dernière. D'accord? C'est la guerre d'Hashem contre Amalek, c'est une guerre éternelle. Parce que, d'une certaine manière, Amalek, il se nourrit de la négativité d'Israël. Donc, tant qu'il y aura de la négativité dans le clan d'Israël, il y aura Amalek. Et Amalek n'est pas obligatoirement à l'extérieur du clan d'Israël. Le Gaon de Vilna dit qu'Amalek, dans l'histoire, il est entré à l'intérieur du clan d'Israël. Pour le Gaon, il y a des gens qui sont à l'intérieur du clan d'Israël et qui sont Amalek. C'est pas Amalek, c'est l'autre. C'est un autre, mais c'est ton frère.
Ça veut dire qu'il y a peut-être une part d'entre nous qui est Amalek ? Une part dans chacun d'entre nous ?
Il n'a pas dit ça. Le Gaon a dit qu'il y a des gens dans le clan d'Israël qui sont Amalek. Il n'a pas dit que tout le monde a de l'Amalek en soi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est juste une petite parenthèse pour comprendre pourquoi Yitro vient. Il a vu qu'il se passe quelque chose de très important. Et alors, de nouveau, Lamech Davar, je pense que ça vous a frappé quand même. Regardez le verset. Vous avez le verset devant vous. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce premier verset ? Il y a quelque chose qui est très frappant, non ? On va lire ensemble. Vaishma Yitro Kohen Midian Chotel Moshe. Yitro a entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Et kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo. Il a entendu tout ce que Elohim a fait à Moshe et à Israël, son peuple. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Ki hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Pourquoi il a changé de nom divin ? Il commence le verset avec Elohim et il continue avec Hashem. Alors le Netziv, le mec d'Avar, il dit... Si cette phrase, elle ne parlait que d'une seule chose, alors on aurait dû dire Ki otziam Elohim mimitzraim, parce que Elohim les a sortis d'Égypte, puisqu'elle a déjà parlé de le peuple, ou bien il aurait dû dire Asher asa Hashem Ki otziam mimitzraim. Il a entendu tout ce qu'Hashem a fait, pas tout ce qu'Elohim a fait. Et là, Shnei Dvarim Shama. Il a entendu deux choses, Yitro. Premièrement, Asher Asa Elohim. Elohim, c'est le Koh Hadin. C'est la Milat Hadin, Elohim. Elohim, c'est un nom divin qui dit que, enfin, qui désigne Hashem quand Hashem est en train de punir ou de sanctionner ou d'appliquer la justice. C'est-à-dire, Elohim, il a réclamé la justice. Il a vu que, comme Moshe, Israël, son peuple, que Moshe ont été poursuivis, que Moshe a dû fuir, etc. Bon, donc Elohim, il a entendu qu'il y avait une justice dans le monde, que la Midat Hadin, elle s'applique. Les Égyptiens qui ont fait tout ce mal-là, ils sont sanctionnés. Et deuxièmement, il a entendu qu'il y a aussi Hachem. C'est Hachem qui a... Hachem, c'est le tétragramme, il fait référence à la Midat à Rachamim, à la tendresse divine. Efsharaya, Litvoa, on aurait pu réclamer protester contre le mal qui a été fait au Bnei Israël, mais ils auraient pu rester en Égypte. On va aller, je sais pas, Hachem aurait pu faire en sorte que les Égyptiens sont obligés de leur donner des terres, il est obligé de... On peut... des réparations. Mais il a entendu qu'Hachem les a fait sortir de Mitzray. Oui. Mais il faut lire que ce que Elohim a fait en faveur de Moshe et de son peuple. Le Moshe, pour Moshe. Alors, il dit, dès le moment où Yitro a rejoint Moshe, alors Moshe lui a expliqué ce qu'elle était la tâche d'Israël dans le monde. Il faut qu'il fasse connaître Hachem dans le monde. Et ça, c'était pas possible en restant en Égypte. Et maintenant, quand ils sont sortis, il a compris, qu'il y a aussi Hachem, c'est-à-dire le farsem kvodo ve'aviato idbarach ba'olam. Il les a fait sortir d'Égypte pour publier la puissance divine, etc. La gloire divine, la puissance divine. Mais Yitro, il a d'abord pensé à Sherasa Elohim. Parce que tout le monde a compris que c'est pour faire sortir les Bnei Israël. Mais tout le monde a bien compris que avec une seule Makkah, à quatre Bechorot, à elle toute seule, et bien Israël serait sorti. Bon, c'est-à-dire, on voit très bien que Hachem, il sait très bien qu'il va même aider Paro à supporter, etc. Puis après, il dit, maintenant c'est fini, la démonstration de ma toute-puissance, etc., elle est faite. Maintenant, je vais sortir les Bnei Israël, et j'envoie la Maka, c'est moi-même qui viens, qui m'occupe, et je fais en sorte que les Bnei Israël sortent d'Égypte. Donc il y a deux choses. Il y a l'idée de la sortie d'Égypte elle-même, sortie des Bnei Israël d'Égypte, pour publier. Il ne s'agit pas seulement du fait que Hachem a sanctionné, enfin qu'Elohim a sanctionné les Égyptiens pour tout le mal qu'ils ont fait. Ensuite, Vaikach Yitro Choten Moshe. Bon, on s'en rappelle, hein, verset d'avant, on a dit qu'il était Choten Moshe. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de dire Choten Moshe une deuxième fois? En fait, Yitro, il avait sept noms. Rashi en parle au tout début là, de la paracha. Il s'appelait Yeter, en fait, et quand il s'est converti, on lui a ajouté une lettre, le Vav à la fin de son mot. Et aussi, on l'a appelé Chovev parce qu'il a, il a aimé la Torah. On dit Chatan Moshe, Chotel Moshe, pardon, le beau-père de Moshe, Kanaya Yitro Mitkabed Be Moshe. Ani Chotel Namelech, je suis le beau-père du roi. Avant, quand Moshe était son berger, en fait, c'est Moshe qui disait, enfin, c'est marqué, Vayeshev Eliezer Chotno, il a habité avec Yeter, son beau-père. Donc, il y a un moment où Moshe était le gendre de Yitro, et maintenant, c'est Yitro qui devient le beau-père de Moshe. Mais ça, c'est le sort de beaucoup de parents. Un certain temps, les enfants sont les enfants de leur père, et suivant le rôle que jouent les enfants dans leur communauté, etc., quand vous arrivez, vous êtes le père ou le beau-père de tel et tel. Ça change. Kolacher Asa Elohim, le Moshe ou l'Israël Amo. Rachid dit, le Moshe ou l'Israël, Shakul Moshe Keneged Kol Israël. Que Moshe, il pèse autant, si vous voulez, que tout le clan Israël. C'est pas évident dans le texte, non? Où est-ce qu'on voit? Il a fait. Effectivement, le problème, c'est que lui, il a vu ce qui a été fait à Moshe. Et comment il peut dire Moshe et le clan Israël? Le « et » suppose qu'on peut les comparer. Enfin, qu'on... Si vous voulez, c'est... Et surtout de citer Moshe en premier. C'est-à-dire, c'est... Mais on peut dire que c'est son gendre, donc il le cite en premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Kolacher Asa, aussi Asa Lahem, Iridat Aman, Be'er ou Ba'amalek. Et qui aussi Hashem, Zug Dula Mikulab, Al-Kulab. Ça c'est encore, c'est plus grand que tout. La sortie d'Égypte, c'est plus que l'Aman, le Be'er, la victoire contre Amalek. La sortie d'Égypte, c'est. Effectivement, si on regarde, la sortie d'Égypte, c'est Hachem qui dit, c'est Hachem lui-même qui nous a sorti d'Égypte. Amalek, c'est, bien sûr, c'est Hachem qui nous a, mais la guerre, elle a été sur le terrain, il y avait Yoshua, sur la colline, il y avait Moshe pour montrer l'exemple. C'est la guerre contre Amalek, et le passage de la mer, c'est aussi, c'est Moshe qui a étendu sa main. C'est, tout ça, c'est sur l'ordre d'Hachem avec Hachem. Mais il n'y a que sur la sortie d'Égypte que c'est marqué, comme on disait dans la Haggadah, l'oal des malach, l'oal des saraf, l'oal des shliach, etc. Et là, Akadosh Baruch Hu, Bechvado ou Batsmo. Hachem lui-même nous a sorti de Mitzrayim. Ça veut dire que tu pourras pas, tu peux pas comprendre comment on est sorti d'Égypte. Alors, si c'était, c'est pas une révolution, c'est pas un changement de dynastie, c'est pas un tremblement de terre, un tsunami, c'est pas la décolonisation, c'est pas tout ce que vous pouvez imaginer dire de qui permettrait à un peuple de se libérer. C'est rien de tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui est intervenu. Donc on peut pas rabattre ça sur rien de connu ni d'inconnu d'ailleurs. Alors, Vaikach Yitro Choten Moshe. Et Tzipora eshet Moshe achar shiluchea. Ve shnei banea asher shem ha'echad Gershom, ki amar ger hayiti beretz Nochia, ve shem ha'echad Eliezer, ki Elokei avi be'ezri, ve yatzileni mi cheref paro. Yitro vient, mais il a pris Tzipora, la femme de Moshe. après qu'elle ait été renvoyée. Et ses deux fils, dont l'un s'appelle Gershom, et on nous redit pourquoi Moshe Rabbeinu il l'a appelé comme ça, Gershom, ça veut dire étranger là-bas, Amar Ger Haïti Beres Nochia, j'étais un étranger en pays étranger. Et l'autre, c'est, vous voyez, on ne dit pas l'un et l'autre. Le nom de l'un est le nom de l'un. Shema Echad, Shema Echad. Pas Shema Echad, Shema Acher, Shema Sheni. Ils sont tous les deux Echad. Elokei Avi Be'ezri, Hashem, le Dieu de mon père, m'a aidé et m'a sauvé du glaive de Paro. Paro voulait le tuer, évidemment. Quand, comme Rashi dit, quand Datan et Aviram l'ont dénoncé, à Paro, comme ayant tué l'Égyptien, il a tué un Égyptien pour... l'Égyptien qui, en fait, tuait un Juif pour lui prendre sa femme, en fait. Et lui, il l'a tué. Mais il pensait que personne ne l'avait vu, mais Datan et Aviram, deux juifs, l'avaient vu. Et eux, ils l'ont dénoncé. C'est une plaie, ces deux-là, Datan et Aviram. Donc, il y a dans Chazal que Moshe Rabbeinu avait une question. Il se demandait pourquoi les juifs, pourquoi les Bnei Israël, ils souffrent tellement. Et quand il a vu qu'il y avait des délateurs dans le clan d'Israël, il dit, j'ai plus de questions. Si le clan d'Israël produit des délateurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple. Parce que si dans le peuple, il y a des gens qui dénoncent les uns les autres, si vous voulez, on est dans une situation où, je ne sais pas si vous avez lu un peu comment c'était sous les nazis ou sous les communistes, où chacun avait à craindre que le voisin, le type qu'il voit, n'importe qui, tu pouvais te dénoncer à tout moment et ou tu mourais, ou on t'envoyait en Sibérie, ou ça pour rien du tout, simplement quelqu'un t'a dénoncé comme ayant entendu cette chose-là et n'ayant pas dénoncé. Puisque toi, t'as pas dénoncé, alors tu es dénoncé comme n'ayant pas dénoncé, donc c'est un mauvais soviétique, et donc tu es un mauvais communiste, et donc ou on te tue, ou on fusille, ça dépend, il y a des moments où on fusillait, des moments où on envoyait en Sibérie. Il y avait... Donc là, ici, dès qu'il y a des délateurs, c'est la fin des haricots. La délation, c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que il a pris Tzipora, la femme de Moshe, après son renvoi? Alors Rashi dit que chez Amarloa, quand je bouchou be Midian, quand Hashem a dit à Moshe Rabbeinu en Midian, il lui a dit Shuv Mitzrayma, il lui a dit retourne en Égypte. Alors Moshe Rabbeinu a pris sa femme, ses enfants, et quand il est arrivé dans le voisinage de l'Égypte, Yatsa Aaron Likrato. Aaron est sorti à sa rencontre. Comment Aaron le savait, je ne sais pas. Comment Aaron savait-il que Moshe venait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a envoyé quelqu'un est allé lui dire. Vaivgeshehu Behar Elokim. Il l'a rencontré Behar Elokim, probablement au Sinaï, ça veut dire. Amarlo Mihem Alalu. Alors Aaron a dit à Moshe, mais qui c'est cela, cette femme et ses deux enfants? Amarlo, Zui Ishti, Shenasati Bemidian, Velu Banai. C'est la femme que j'ai épousée en Midian, et ça, ce sont mes enfants. Alors, Aaron lui a dit, mais, Echanata Molichan, où est-ce que tu les amènes? Tu les amènes en Égypte? Il dit, Amarlo le Mitzraïm. Moshe Rabbeinu, il a répondu. On a l'impression qu'il fallait pas, ça n'appelait pas une réponse, mais. Il dit, Amarlo, Ala Rishonim, Alo Mitztarim, Batabalo, Sifalem. Nous désolons d'avoir des enfants et des femmes en Égypte. Parce qu'elles souffrent, parce que tout le monde souffre. Et toi, tu en amènes d'autres? Il lui a dit, Amarla, Lechi El Betavir. Alors Moshe a écouté son grand frère et il a dit à Tzipora, tu retournes chez toi, retourne chez ton père. Il n'a pas dit, va chez ta mère, il lui a dit, retourne chez ton père. Aznatlash Nebanea Baalchala. Elle a pris ses deux fils et elle s'en est retournée chez Yitro. Donc, on explique pourquoi il l'avait renvoyée. Cette expression de renvoi, on l'entend ici comme quelque chose d'un guet, quoi. Quelque chose comme. Alors en vérité, c'est comme ça. Avant Matan Torah, la halakha était que dès le moment où un homme renvoyait sa femme, ils étaient divorcés. Moutar lissa l'inassé l'acher. Elle avait le droit de l'épouser qui elle voulait. Il n'y avait pas encore de système de. On n'a pas la Torah encore, oui. On parle d'avant. Donc elle pouvait épouser. Il avait dit, tu peux pas, tu peux rentrer chez toi. Elle pouvait épouser à ce moment-là, retourner à Midian, l'épouser qui elle voulait. Le Rambam, il écrit ça dans Hilchot Melachim. Et il dit, lui, il dit qu'il en a déjà parlé. Pour cette raison, Odia Akatuv Sheloken Aitan Tzipora. C'est pour ça que le verset nous dit que Tzipora, elle ne s'est pas considérée comme divorcée de Moshe. Iaita Eshet Moshe. Elle s'est considérée comme étant la femme de Moshe. C'est la raison pour laquelle la Torah écrit Eshet Moshe et pas Bito Shelitro. Il aurait dû dire, sinon Yitro aurait pu dire, il a pris sa fille. Achashi Lukhea, Shelo Yisicha Da'ata Mimenu. Il a envoyé, mais elle n'a jamais abandonné l'idée de je suis la femme de Moshe, et quand le moment viendra, on se retrouvera. Mais il y a une mechilta, c'est-à-dire un midrash ala qui dit, un gadak, alacha, pardon, Tanya shilcha beget. Il lui a donné un get. Qu'est-ce que tu veux? Il lui a donné un get. Mikol makom nikret eshet moshe, s'il lui a donné un get. Pourquoi elle s'appelle Eshet Moshe, d'après la Mechilta? Shaita miyuchedet elav, zenikra Eshet belanshon hakodesh. Moshe katavti. Dans l'anshon hakodesh, Eshet, c'est une femme qui se considérait n'appartenir qu'à lui. C'était elle, c'est sa démarche à elle. Elle s'appelle Eshet. C'est-à-dire, une femme pouvait, en quelque sorte, unilatéralement décider qu'elle était la femme de tel et tel. Et ça ne lui créait aucune obligation. C'est elle. C'est comme si elle faisait un éder, quoi. À la limite, je ne me marierais avec personne d'autre qu'avec lui. Donc elle a décidé que. Voilà. Et c'est intéressant parce que quand elle va revenir, bon, elle sera la femme de Moshe. On n'entend pas que Moshe a refait des kiddushin. D'après la Mechilta, il aurait dû refaire des kiddushin. Bon, on dirait, on est avant Matan Torah, il est ici, donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de refaire des kiddushin. Il n'y avait pas de kiddushin avant. « Qu'est-ce qui est frappant encore dans ce dans le verset, dans le troisième verset? Si vous aviez écrit le verset, vous auriez écrit comme ça.
Un changement de la chaîne au niveau de guerre et Nochria.
Non, Eretz Nochria. Ah. Guerre, voilà, il dit, j'étais un étranger, moi, et le pays est un pays étranger. On dit, il y a Eretz Gera, je n'ai jamais entendu. Il aurait pu dire, Haïti Nochri, mais on ne disait pas comme ça. Avraham Avinu aussi dit, guerre, votre Toshava Nochri, ma femme. Non, ce qui est frappant, c'est quoi?
Deux fils et puis un secteur dans cette personne.
Pardon? Oui, peut-être.
Oui, au début, on parle des deux fils.
Oui.
Et au final, on n'en cite qu'un seul.
Non, il cite les deux, là.
C'est la suite.
La suite, c'est. Il lit le verset 4, il, dit le deux, il donne le deuxième. Non, mais c'est marqué que c'est ses fils à elle. Banéha. C'était les fils de Moshe, non? Quand on dit Vachne Banav Shel Moshe. Vachne Banéha.
C'est Échette Moshe, alors bon, ça va dans la continuité.
Ouais, bon. C'est un autre verset. Vet Shne Baneha. Le Netziv, il dit Le Lamed Shne Baneha Hema Amekashrim Ota Le Moshe Gamachar Shilokhea. Grâce aux enfants, elle est encore liée à Moshe. C'est le grand problème du divorce. En général, quand deux personnes divorcent, normalement, elles devraient se séparer complètement. Quand elles ont des enfants en commun, c'est quasiment ingérable. Elles ne peuvent pas se séparer complètement. On a sans arrêt à entrer en contact l'un avec l'autre pour gérer l'éducation des enfants. Donc, effectivement, les enfants, ses enfants. Et pourquoi maintenant on dit Shiloché Banéha? C'est elle qui les a élevés. Alors, ici, on a cette chose dont probablement je vous ai déjà parlé une autre année. Certains disent, comme je vous ai dit au début, que Yitro, il est venu après Matan Torah. De toute manière, Yitro, il est venu, au moins tel que c'est marqué dans Rashi, après la guerre, après la sortie d'Égypte, et après le passage de la mer, et après la guerre contre Amalek. Ça veut dire que Tzipora, la femme et les enfants de Moshe, n'était pas là à la sortie d'Égypte. Il n'était pas là au passage de la mer. Il n'était pas là à la guerre contre Amalek. D'après ceux qui disent qu'il est venu encore après Matan Torah, il n'était même pas là au moment de Matan Torah. Alors, c'est les seuls juifs qui n'étaient pas là. La femme et les enfants de Moshe.
Il y a des descendants.
Oui, mais c'est les gens qui n'étaient pas là. Et si on dit, c'est comme ça, ça dépend tout quand il est venu, mais les Bnei Israël, en fait, tout le clan d'Israël s'est converti avant Matan Torah. L'histoire de Sefer Abrit et le sang qui a été, etc., tout ça c'est un processus de conversion, et ce processus de conversion, il est le modèle du processus de conversion encore aujourd'hui. Le Rambam, il décrit la conversion des Bnei Israël, et il dit, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mila et Tvila. Bon, c'est la Mila, la circoncision, et l'immersion dans un mikvé. Ou seulement l'immersion, évidemment, pour les femmes, uniquement l'immersion. C'est ce qui s'est passé au Sinaï. Donc, si eux n'étaient pas là, ils n'ont pas été convertis avec tout le monde. La D'accord ? Donc d'après ça, hein, les enfants, la femme de Moshe et les enfants de Moshe, ils ont dû se convertir après. En même temps qu'Yitro, éventuellement, peut-être un peu après, ou un peu avant peut-être, mais... Donc eux, ils ont eu une conversion individuelle, si on peut parler comme ça. C'est pas simplement qu'ils avaient une cabine de mikvé pour eux. Non, c'est qu'ils n'étaient pas dans le processus. C'est impensable. Ça n'a pas l'air de vous choquer, mais enfin, moi, c'est extrêmement choquant. La femme et les enfants de Moshe n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là à la sortie d'Égypte, au moins. Bon. Tout le monde était là, mais pas eux. C'est terrible, non, pour Moshe, pour eux aussi, et pour Moshe aussi. Mais il fait sortir tout le clan Israël, mais tout le monde va vivre ce dévoilement de la présence divine dans le monde, et tout ce que vous voulez, sauf Tzipora et les enfants de Moshe. Alors, que Yitro n'était pas... Bon, Yitro, c'est un goy, donc il n'était enfin, pas dans le coup. Mais eux, ils sont dans le coup, non? C'est les enfants de Moshe.
De conversion s'est fait après pour eux, c'est ça?
Après?
Après.
Pour eux, ben, s'ils n'étaient pas là à la conversion générale, ils ont bien dû se convertir à un autre moment. Puisque les Juifs, les Hébreux, disons, qui sont sortis d'Égypte, ce sont tous... C'était pas suffisant d'être Hébreux, etc. Ils ont dû passer quelque chose qui est de l'ordre de la conversion. Donc, si eux, ils l'ont pas passé, ben, ils ont dû le faire avec tout le monde, ben, ils l'ont dû le faire après. C'est vraisemblable, s'il est venu avant Matan Torah, ce qui semble être, si on tient... Il y a un grand bilboule entre... Enfin, une grande marloquette entre Rashi et Ramban et les autres pour savoir si... est-ce que ici, c'est tout chronologique ou pas? Entre ce qui est écrit dans Yitro, dans Mishpatim, est-ce que c'est... Rashi, il dit que c'est pas chronologique. Rashi dit que tout ce qui est écrit sur le Sefer Abrit, etc., qui est écrit après Matan Torah, a eu lieu avant Matan Torah. Je vais parler de ça à Motzé Shabbat.
Il n'y a pas eu l'Aliya avant Rabban Meisser?
Il dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'avez-vous dit? Le Mila, mais non, mais la Mila, elle était valable. On a fait la Mila, mais tant qu'il n'y a pas eu de Tvila, la Mila, elle vaut rien. Elle n'est pas suffisante. Et la Tvila, elle était à Matan Torah. Yetziat Mitzrayim, elle ne se termine qu'avec Matan Torah. Donc, ils sont arrivés, il est arrivé chez Moshe, avec Banav, cette fois-ci c'est écrit Banav. D'accord, dans le verset 5, verset He, Vayavo Yitro Chotel Moshe, ou Banav. Veishto. El Moshe. Dans le Midbar, où il était là-bas, à Réloki. Et il envoie dire à Moshe, je suis ton beau-père, j'arrive avec ta femme et lui il dit, et ses enfants à elle de nouveau.
Là, c'est les enfants de Yitro.
Quoi?
Vayavo, Yitro, Moshe, ou Bana, Veishto, c'est les enfants et la femme de Yitro.
Non. Veishto, elle, Moshe, mais. Il faut comprendre que ça porte sur Moshe. Parce qu'il y a Hotel Moshe, ou Banav Veishto El Moshe, mais c'est vrai qu'on aurait pu écrire ça autrement. Il y a sûrement une raison pour laquelle c'est écrit à l'envers. le fait qu'ils disent que Tsipora, enfin, ta femme et ses enfants, dit Yitro, sont là avec elle, en vérité, il y a tout un problème. Yitro, il voudrait bien que Moshe sorte à sa rencontre. Il voudrait être reçu par Moshe. Mais il lui dit, il a envoyé quelqu'un lui dire, hein, il lui dit, écoute, si tu sors pas pour moi, mais sors pour ta femme, et sinon et tes enfants. Mais Moshe, bien sûr, il est sorti à la, c'est marqué l'Ikrat Rotno. Il est sorti pour son beau-père. Et il s'est prosterné, ils se sont embrassés, ils se sont demandé des nouvelles. Et Vayavo ou Aoela, ils sont entrés dans le Oel. Ils sont entrés dans la maison, quoi. Et alors, il a le fameux verset. Vaïsaper Moshe le Chotno et kol asher asa Hashem le parol, Mitzrayim al odot Israël, et kol atla Hashem et tzatam baderech, viatzilem Hashem. Moshe, il lui raconte tout ce qu'il savait déjà. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Et c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu. Il est venu parce qu'il a entendu la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que tu lui racontes, la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'il lui raconte, là?
Oui, mais il avait entendu la version colportée, quoi.
C'est ça. C'est pas la même chose de l'entendre de la bouche de Moshe avec la joie, avec le.
De l'acteur. Enfin,
ouais, 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 ouais.
Un acteur témoignant.
Alors, on nous dit ici quelque chose d'intéressant. Que, bon, il a raconté tout ça et. C'était. C'est marqué Vaïchad Yitro. C'est un terme très étrange. Parce que Vaïchad. Ça veut dire, il s'est réjoui, Yitro. Mais le passage qu'il aurait dû dire, va Yitzmar Yitro, c'est un mot standard pour dire la simcha. Il a pris ce mot de chad. Parce qu'il est ambigu, ce mot. Parce qu'on entend aussi autre chose dans ce mot. Chad, ça veut dire pointu. Ça veut dire que là, il a attrapé la chair de poule par où? Ces petites pointes là. Vaïsmar Yitro, c'est Upshuto. Le Pshat, c'est il s'est réjoui. Midrash Agada, Naseb Saro Chidudin Chidudin. Il a attrapé la chair de poule. Metzar Alibud Mitzrayim. Quand même, il est affecté par la disparition de l'Égypte. C'est ce que disent les gens, parce que, bon, la Guéroute, elle est bonne, parfaite, mais pendant 10 générations, ne lui dit pas de mal du peuple dont il est issu. Il y a quelque chose, un attachement au peuple dont il est issu, et tu ne peux pas lui dire du mal, pas lui dire du mal. Parce que tu le mets mal à l'aise, et quelque part, ça. C'est intéressant parce que Yitro, c'est un bonhomme qui est devenu persona non grata en Égypte. D'accord, il a fui l'Égypte, parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas cautionner le projet de Bilam de noyer les enfants juifs. Donc il est parti. Et donc il a dû s'exiler à cause de ça. C'est un bonhomme qui a des principes, disons, et qui. Bon, c'est un bonhomme. On nous dit que c'est quelqu'un qui a une recherche, il a tout essayé. On dit que Yitro, c'est un bonhomme qui a essayé toutes les idoles qu'on peut imaginer, et qui est arrivé de cette manière-là à la Torah. Il n'est pas arrivé à la Torah parce qu'il a entendu quelque chose sur la Torah seulement, mais parce que c'était l'aboutissement d'une recherche. quand il a entendu, il avait, dans sa recherche, il a entendu ce qu'Hachem avait fait, donc il a compris que c'était ça, il était arrivé quoi aussi. Et malgré tout, malgré que l'Égypte lui ait fait du mal, mais enfin, c'était un Égyptien probablement. C'est intéressant parce que si c'est comme... Bon, vous pouvez dire que l'Égypte étant un empire, à ce moment-là, on peut imaginer qu'ils avaient des conseillers qui venaient d'ailleurs. Parce que sinon, on devrait dire que Bilam, c'est un Égyptien et que Iov aussi est un Égyptien. C'est les trois conseillers de Paro. Mais c'est possible que dans un empire, on prend des conseillers étrangers aussi.
Joseph aussi était conseiller de...
Qui ?
Joseph.
Oui, Joseph a été... Oui, mais bon... D'accord, mais justement, on savait qu'il était étranger et que de ce point de vue-là, il pose. C'est vrai, vous avez raison. Finalement, c'est effectivement, on voit très bien que bon, mais Yosef, on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que Yosef, il a sauvé la mise à Paro et tout ça. Donc, mais ici, bon, c'est possible effectivement que.
Parce qu'on, je sais plus, il me semble qu'on avait dit que l'intérêt pour Pharaon d'avoir un étranger comme conseiller,
c'est qu'il ne risquait rien.
Il risquait rien.
Et c'est ça.
On voit aussi même aujourd'hui avec le roi du Maroc.
Ouais.
C'est vrai, ils s'entourent de juifs plutôt que de marocains.
Oui, c'est assez juste. C'est juste. Non, non, on peut. Mais malgré tout, en tout cas, lui, il était affecté par ce qui se passait en Égypte. Ce qui s'est passé, là. Parce que c'est sûr que c'était. Si vous voulez, il y a une civilisation qui a sombré, corps et âme, si vous voulez, ici. Partie dans la mer, après l'Égypte. Un peu comme ce qui s'est passé en Espagne quand ils ont expulsé les Juifs d'Espagne. L'Espagne a chuté, quoi. Ils ont mis beaucoup de temps jusqu'à ce qu'ils remontent, jamais remontent. Donc en tout cas, lui, on dit il s'est réjoui, ça c'est le pshat. Mais bon, il y avait... Pourquoi le texte a mis cette... il a utilisé ce verbe-là qu'on n'utilise jamais. Et alors, ici, du coup, ce Yitro, il est extrêmement grand et... Et là, certains disent que les Bnei Israël sont en général gênés parce que les guérims sont meilleurs qu'eux. Ils font des choses qu'eux ne font pas, ils sont plus medakdek, etc. Donc plus ils sont meilleurs qu'eux. Ici, c'est un truc. Yomer Yitro, Baruch Hashem, Asher Itzil Etchem, Miyad Mitzrayim, ou Miyad Paro. Asher Itzil et Ha'am mitachat yad Mitzrayim. Il fait une bracha. C'est terrible, quoi. Parce que c'est... Nulle part, personne n'a fait de bracha jusqu'à présent. Lui, il arrive, il fait une bracha. Le tziv, il le dit. Moshe v'chol Israël lo barchou ad gmar ha-geoula. Ils ont attendu la fin de la geoula, c'est-à-dire à Kriyat Yamsouf. À ce moment-là, ils ont dit Shira, on peut dire que c'est comme une bracha. Mais Yitro, il veut une bracha à Belachon Regila. Il a fait tout de suite une bracha. On voit en tout cas la richesse de la personnalité. On peut se réjouir de la chute de l'Égypte, etc. Et en même temps, être affecté par la chute de cette Égypte. C'est, tout ça, ça se passe dans Yitro, quoi. L'être humain, c'est un... une halakha dans Yitrot Avelut, que si quelqu'un y perd un ascendant et que l'ascendant lui laisse un gros héritage, il fait chérir à nous. Il est en Avelut et en même temps il fait chérir à nous. C'est là à la fin. Il y a des situations où on nous oblige. Quelqu'un qui, supposé quelqu'un qui y perd un proche, qu'on enterre la veille de Soukhot. La veille de Soukhot l'après-midi. Le soir, il rentre dans sa soukha, il fait chérir à nous.
Il y a une différence, là, il est dans une soukha, il peut dire chérir à nous. Est-ce que quand il est dans un bête avec, il dit chérir à nous, là, il y a des gens qui ne peuvent pas spécialement la fin.
Bah, il ne va pas le dire en public, parce que les gens, sinon, ils vont venir le taper tout de suite. Ah, t'as fait un gros héritage, alors.
Ouais, puis là, il va dire, je sais rien qu'il fait, c'est par rapport à la soukha, c'est pas par rapport à sa situation.
Non, mais dit, Zman Simchatenu. C'est notre, il dit dans le Kiddush, il dit, c'est Zman Simchatenu, le temps de notre joie.
Oui, mais par rapport à la soukha.
Oui, bien sûr. Mais là aussi, c'est par rapport. C'est pas, il ne dit pas chez rien nous parce que son ancêtre est. Son ascendant, il est mort. Il fait chérir à nous à cause du trésor.
Oui, du trésor, qu'il a reçu.
L'autre, il est mort. Bon, alors, je sais pas, je pleure pour sa mort et je me réjouis de son... Les gens, ils appellent ça les espérances. Il peut faire chérir à nous, oui. Pardon, pour ?
Pourquoi ? Parce qu'il a une nouvelle richesse, il fait
chérir à nous. Chérir à nous, mais Guilain nous m'a rasé, ça veut dire. Tu m'as.
Ça me fait plaisir quand
même. Même s'il disait, Atov Vermetiv, ou quelque chose comme ça, il fait bord Dayan Emet sur la mort et Atov Vermetiv sur le. Atov Vermetiv sur le trésor. Non, juste pour dire, on voit ici la complexité de l'être humain, quoi, quelque part. De ce que je vous dis, on peut dire, c'est la halakha qui me dit de faire comme ça, alors. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Lui, ça lui est venu naturellement. Naturellement, il s'est réjoui, et la Torah, elle a choisi de nous dire qu'en même temps, il y avait quand même quelque chose, un petit dérangement. Il a donné la chair de poule, c'est-à-dire que quelque part on peut dire, la chair de poule on ne la maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il s'est réjoui, mais bon ça c'est peut-être intellectuel et tout ce qu'on veut, mais après la chair de poule c'est le corps réagit. Le corps réagit, ça veut dire, ok c'est mon voisin, c'est des gens que je connais, tous ces gens-là, et si ça se trouve Yitro, il les connaissait tous ces gens. Enfin toute la crème de l'Égypte, c'était, si ça se trouve, ses anciens copains. Bon alors ils l'ont... À cause de Paro, il s'enfuit, mais peut-être les autres, ses copains, ils seraient restés ses copains si c'était pas pour. Ils n'osaient pas le faire par rapport à Paro.
On peut dire qu'il a fui Paro, mais pas l'Égypte.
Oui, bon, de facto, il s'est retrouvé en fuite par rapport à l'Égypte et à tous les Égyptiens, mais. Oui, c'est juste. Mais. Bon, il a compris la grandeur de ce qui s'était passé, donc. Il va se convertir, enfin il se convertit, enfin, il se réjouit vraiment, la Torah dit qu'il se réjouit, ça veut dire qu'il se réjouit, c'est pas, il a fait semblant de se réjouir, si la Torah dit qu'il se réjouit, ça veut dire, il s'est vraiment réjoui. Et en même temps, son corps, à son corps défendant peut-être, son corps réagit et...
commentaire, là, ils disent qu'en fait, c'est...
Bah, d'une certaine façon, les Égyptiens, ils sont embarqués par Paro.
Ben oui, on voit que quand la semaine dernière, on a dit que Moshe était grand aux yeux des Égyptiens, les Égyptiens, ils ont bien compris que c'est Paro qui les a mis dans la panade, et c'est pas Moshe qui les a mis dans la panade.
C'est ça aussi qui ressent, quoi.
Oui, c'est sûr qu'il y a la. Non, c'est ce que je disais avant, c'est ses copains qui sont. Ouais. Ils ne pouvaient pas faire autrement que. Sinon, ils devaient tous fuir. Ils auraient dû tous fuir l'Égypte. Parce que c'est probablement comme ça. Quand, ce qu'on dit sur la Guéroute, c'est. On s'est séparé des gens, ça ne veut pas dire que c'est nos ennemis. Quelqu'un, il a compris quelque chose, il est... Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on ne pourra pas manger ensemble ou des trucs comme ça, mais ça, il n'empêche qu'on... Normalement, si l'autre n'était pas remis en question, etc., parce qu'on peut dire, t'es remis en question, parce que comment tu fais pour continuer de... Tu restes là... C'est une question qui se posait et tous les gens qui sont restés au service du nazisme quand les nazis ont pris le pouvoir, ils n'ont pas tous déménagé, hein, ils n'ont pas tous rendu leur tablier, les juges sont restés des juges, les avocats sont restés avocats, tous ceux qui pouvaient le rester sont restés. Parmi eux, il y a eu des gens qui étaient gens très bien, mais qui n'avaient pas la force non plus de. Puis en plus, c'est pas. Ils n'avaient pas la force de se battre, de déménager, de quitter, avec tout ce que ça impliquait. La remarque, il dit, faut pas lui... Ça fait partie... Tu lui fais du tsar en lui... En disant du mal de son peuple. Parce que son peuple, il a... Même les gens qui seront d'un peuple d'idolâtres, les gens... Il y a des idolâtres qui n'y croient pas, quoi, qui... Peut-être qu'ils le faisaient... Ils n'auraient pas dû, c'est sûr, mais peut-être qu'ils le faisaient... Rabbeinu Tam, il a quand même décidé qu'on pouvait faire du business avec les goyim. Dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Avodah Zarah, c'est marqué que trois jours avant, trois jours après une fête des goyim, tu n'as pas le droit de faire du business avec eux. Parce que sinon, il va aller remercier son Dieu s'il a fait une bonne affaire ou lui demander de l'aider à faire une bonne affaire pour la suite, etc. Alors, le Tam, il demande, et nous, ils étaient tous marchands de bestiaux là-bas, d'accord ? Et nous, comment on fait pour faire du business ? Alors, une des réponses, c'est étonnant parce qu'on est en Moyen-Âge, au milieu du Moyen-Âge, et il dit, les gens, ils n'y croient pas. Il dit que c'est... Ouais, ils suivent, ils continuent de faire ce que leurs ancêtres faisaient, mais ils n'y croient pas. Ils vont à l'église, etc., mais ils n'y croient pas.
Non, tout le mot crétin, le crétin, c'est celui qui y croit pour les chrétiens. C'est de là que vient un mot.
C'est une blague ou bien ?
Non, non, c'est pas une blague du tout. Le crétin, c'est celui qui prend au sérieux ce que raconte le curé. C'est le début du coin, quoi.
Ouais.
Oui, mais il y a remarqué que vous avez des sectes comme ça.
Oui, bien
sûr. Ça n'existe pas.
Non, si vous insistez, je vous coupe le micro. Bien, nous sommes arrivés.
C'est un hypersensible, le guerre, parce que chez nous, on dit, il ne rappelle surtout pas que c'est un guerre, parce que ça peut l'affecter. Là, on dit, ben, ne lui rappelle surtout pas que, quand il parle de son...
Non, là-bas, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'on n'ait pas le droit de dire à quelqu'un qui est un Baal Tshuva, par exemple, hier tu étais un. Etc. Même chose, c'est le même din. Raconter à quelqu'un que hier il n'était pas. Bien, on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit de mentionner à quelqu'un que. C'est pas simplement qu'il a sans sensibilité. Ça, c'est pas un problème de sensibilité. Là, ici, c'est un problème de sensibilité. Voilà. Merci. Bonsoir.